Quelles sont les souffrances auxquelles nous sommes exposés en tant que chrétiens? Alors Jésus, c'est l'homme de douleur habitué à la souffrance, hein, du psaume 53. Ésaïe 53, pardon. Alors pas tout en même temps. Toutes les souffrances auxquelles on peut être exposé pour rendre le message concret, pour l'ancrer dans notre réalité. Je fais ça, je fais pas ça pour vous embêter, mais pas pour que on puisse se connecter dedans, hein, pour rentrer dedans, parce que ça reste pas quelque chose de lointain, mais quelque chose qui nous touche.
Quand tu parles,
ah oui, enlever le masque. Oui, voilà, ce sera plus clair. C'est mieux.
Moi, je dirais qu'on est entouré de non-croyants.
De non-croyants, oui. La présence de des personnes qui ne s'inquiètent pas de Christ et qui n'ont pas ce souci et qui n'ont pas.
Et qui vont sens au contraire de ce qu'on a.
Oui, le sens contraire, ça aide pas. Ça fait souffrir d'avoir lutté contre le courant. Oui, le rejet, le sentiment de rejet, de pas être comme les autres, de pas rentrer dans le moule. Enfin, surtout ici en France, c'est très 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 fort et ça augmente de plus en plus, hein, puisque la société va dans une direction qui n'est pas de moins en moins la direction de l'héritage judéo-chrétien qu'elle avait. Hein, elle veut s'en séparer. D'autres idées, d'autres. La souffrance également par rapport au, donc comme l'a dit Borel, hein, dans la lutte contre le péché, contre cette oppression, hein, le péché là nous enlace, nous entraîne, nous serre les jambes, très facilement il veut nous rendre prisonniers de lui, et il faut, et c'est une souffrance que de l'avoir, de le supporter dans sa présence. Il est jamais loin de nous. La souffrance également par rapport aux personnes qui nous entourent, qui connaissent pas le Seigneur, c'est une souffrance qui est toujours en toile de fond et qui est là, et voilà. Tous nos amis, nos familles, tous ceux qui sont pas au Seigneur, et c'est quelque chose qui est douloureux.
Et la souffrance de se défaire de ses vieilles habitudes et de rompre certaines relations que le Seigneur ne veut plus, de couper certains ponts.
Oui.
De rompre avec son passé, parfois c'est difficile de tout abandonner en bloc. Ça fait souffrir. Et aussi quand on voit le monde qui a l'air heureux dans ce qu'elle fait, on se dit pourquoi pas nous aussi. Mais on se prive de certaines choses pour plaire au Seigneur et mieux le connaître. Et alors on se prive des choses qui, même si parfois légitimes, mais on en souffre, mais quelque part c'est une bonne souffrance parce qu'on veut plaire au Seigneur.
Oui, renoncement. Bon. Il y a la souffrance aussi physique, hein. Nous sommes des êtres de chair, et puis quand on est malade, on souffre. Il y a toutes sortes de souffrances aussi auxquelles nous sommes exposés. C'est pas facile, hein, de souffrir dans son corps. C'est quelque chose qui est douloureux et dont on voudrait parfois être bien vite débarrassé. Alors on va lire maintenant Romains. Chapitre 8. Je vous invite à retrouver dans vos Bibles. On va lire juste, on va faire l'accroche avec ce qu'on a vu. Je vais commencer à lire au verset 14 en attendant que vous cherchiez le verset 18. Euh, Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, verset 17, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, co-héritiers de héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ », cette chose qui est extraordinaire. Et la petite phrase qui suit, « Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui ». La petite phrase clé qui introduit tout notre passage. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire, gémit, souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est par espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voici le titre que j'ai donné pour ce passage. Les souffrances pour aujourd'hui certainement, la gloire pour demain seulement, mais le Saint-Esprit plaide pour nous intérieurement. Les souffrances sont pour nous aujourd'hui certainement, dans ce premier passage, cette première introduction avec le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent, c'est pour ça que je voulais qu'on les essaye de les mesurer ou de les rassembler, Toutes ces souffrances auxquelles nous sommes soumis, toutes ceux que nous avons été soumis dans le passé, ceux qui sont peut-être devant nous qu'on ne connaît pas encore, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, malgré les apparences, il y a une gloire qui nous attend. Et que l'on ne peut mesurer ou quantifier. Mais quand même, je vais essayer de le faire en opposition avec les souffrances. Notre souffrance dure-t-elle longtemps? La gloire sera pour l'éternité. Notre souffrance est-elle mouillée de larmes? La gloire sera submergée de joie. Notre souffrance est-elle opaque, sombre, incompréhensible? La gloire sera étincelante. Le prophète Daniel a eu cette parole de ces justes qui brillaient dans le ciel comme les étoiles. Alors, ce verset 18, il est bon de le connaître. J'estime que les souffrances du temps présent, c'est un calcul que fait l'apôtre ici. J'estime que les souffrances du temps présent peuvent pas être comparées, incomparables avec ce qui nous attend. Et il prend l'exemple ensuite de la création, versets 19 à 22. Aussi la création entend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. La création soupire et souffre. Après sa restauration, vous connaissez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, tout était bien. La création était bonne. Mais voilà, l'homme qui était passé à la tête de la création visible, de ce monde que nous connaissons et que nous voyons autour de nous, toute cette création, eh bien, il a chuté. Hein. Il a perdu sa gloire. La gloire qu'il avait d'être au sommet. Il a perdu sa communion avec Dieu. Il a perdu sa position. Il a perdu la vie éternelle. Il a chuté. Comment l'homme marqué par le péché, comment des êtres imparfaits que nous sommes pourraient subsister au milieu d'une création restée parfaite? Cela aurait été impossible. Dieu a maudit la terre. À cause de l'homme, Dieu a maudit la terre. En quelque sorte, la création a été rabaissée. Rabaissée avec Dieu. Elle est maintenant flétrie par la mort, par la compétition entre les espèces, par la loi de la survie, par la futilité, la dérision et le non-sens. Et la Bible nous apprend qu'elle souffre comme une femme qui est en train de mettre au monde un bébé. Alors je suis mal placé pour parler de ça, bien sûr. Les mamans sauront l'apprécier. Ce que j'ai appris, c'est que les contractions, comme le moment approche, deviennent de plus en plus rapprochées et de plus en plus intenses. Et ainsi en est-il de notre monde. C'est pas difficile de voir que la création souffre aujourd'hui, sans doute bien plus que ce qu'elle a souffert dans le passé. Et les hommes s'en inquiètent, et c'est quelque chose de triste. Elle gémit, coincée entre le souvenir de ce qu'elle était autrefois dans le paradis et de ce qu'elle sera quand le Seigneur reviendra. Vous connaissez ce passage du prophète Ésaïe qui a parlé de ça. Le loup habitera avec l'agneau dans Ésaïe chapitre 11. Hein, est-ce que vous vous souvenez d'autres choses qui se passera, qui seront extraordinaires? Hein, le petit enfant, il jouera avec le serpent. Hein. La vache et le lion iront brouter l'herbe ensemble. Il ne se passera aucun dommage sur la montagne de l'Éternel. Et la destinée de la création suit le destin de l'homme, de l'humanité. Mais on peut retenir de cela, de ces douleurs d'accouchement. C'était déjà présent du temps de l'apôtre Paul, il y a 2000 ans. Combien c'est plus certain et vrai maintenant, c'est que s'il y a douleur, s'il y a une avancée vers l'accouchement, parce qu'il va y avoir une naissance. Il y a promesse d'une nouvelle vie derrière toutes ces douleurs de l'enfantement. Il y a une promesse de quelque chose de nouveau. Donc le chrétien gémit aussi après sa délivrance au verset 23. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, qui soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Quand on lit la parole de Dieu de ce moment de la création et quand on voit tout ce qui pourrait être et tout ce qui n'est pas, on se dit quel dommage, comme je voudrais revenir dans le jardin d'Éden, quand tout était parfait. L'Esprit Saint, lui, nous donne un avant-goût de ce qui nous attend, les prémices de l'Esprit, de ce qui nous attend dans le ciel. Un avant-goût de la joie, un avant-goût de la beauté, un avant-goût de la sainteté. Et combien notre position actuelle est grande, notre condition de pécheur, avec ce que le Saint-Esprit nous fait goûter, nous fait apercevoir, ses prémices. Alors, comme le reste de la solution, de la création, nous soupirons après le jour de notre délivrance finale, le jour J, l'heure H où le Seigneur va revenir nous chercher pour être avec lui pour toujours. 1 Thessaloniciens 4, 17. Et notre corps corrompu par le péché, la maladie sera alors métamorphosée. Hein? On prend l'image souvent de la chenille et du papillon. Rien à voir entre les deux. Mais cela se fera en un instant, en un clin d'œil. Alors, dans nos souffrances, nous pouvons porter les yeux vers demain. Nous pouvons porter les yeux vers demain, le retour du Seigneur. La souffrance est pour aujourd'hui certainement, mais elle ne durera pas. Elle ne durera pas. Il y a quelque chose d'autre qu'elle prépare. Versets 24 et 25. La gloire est pour demain seulement, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Les contractions de l'accouchement ne sont pas continues, elles sont périodiques, avec cette fréquence, cette intensité qui augmente. Alors, sommes-nous dans notre vie chrétienne dans une période de douleur, avec des épreuves, avec des pourquoi auxquels nous n'avons pas de réponse? Alors ne perdons pas la foi. L'espérance est notre bien précieux. Le Seigneur est proche. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Le Seigneur est proche. Sommes-nous dans une période agréable, remplie de succès, d'abondance? Ne nous trompons pas. Nous ne sommes pas arrivés encore dans la gloire. La gloire, c'est seulement pour le ciel et c'est très différent de toutes les moments bénis que nous pouvons connaître ici-bas. Ne nous trompons pas. Portons toujours les regards vers les réalités célestes, que nous souffrions ou que nous soyons bien. Portons les regards vers ce qui suit, vers les réalités célestes. On ne peut les voir que par la foi. Attention, le Seigneur est proche et il nous a avertis de ne pas nous assoupir. Le peuple d'Israélite, ils ont bien lutté pour prendre possession du pays, mais une fois qu'ils se sont trouvés dans les maisons confortables, ils se sont laissés aller. Et nous aussi, en tant que chrétiens, on peut se laisser aller, on peut considérer que notre vie, finalement, est suffisante. Mais non, il y a quelque chose d'autre. Cette gloire qui nous attend et vers laquelle nous devons tourner les yeux et qui va nous faire soupirer, vers laquelle nous allons soupirer. On parle du déjà et du pas encore. Nous sommes sauvés, certes, mais en espérance, dit l'apôtre. Nous sommes déjà sauvés. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous nous sommes levés pour quitter l'empire du péché, mais nous ne sommes pas encore arrivés dans la patrie céleste. Nous sommes déjà adoptés, héritiers du royaume, mais le sang et la chair ne peuvent hériter le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, 50. Ce n'est pas possible. Nous sommes déjà rachetés, mais notre corps va encore vers le pourrissement. 1 Corinthiens 15, 42. Déjà et pas encore. Il y a une tension dans la parole de Dieu. Alors, persévérons avec foi, persévérons jusqu'à la fin avec foi, espérance et avec amour. Vous savez, les prémices, c'est des gerbes de blé qui étaient apportées devant Dieu avant la moisson. Et ça tenait dans une gerbe comme ça. Mais derrière cette gerbe, il y avait un champ entier qui allait être moissonné. C'était les prémices. C'était juste un avant-goût, juste quelque chose qui était une représentation de ce qui allait suivre, de ce qui suivait derrière. Des champs entiers, une moisson. Alors, le Saint-Esprit nous fait soupirer, gémir après la patrie céleste en toutes circonstances. Il est certain que nous sortirons du tunnel de l'épreuve. Vous connaissez 1 Corinthiens 10, 13. C'est un beau verset à connaître aussi. Il n'est aucune épreuve ou aucune tentation, dit Paul, qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettant pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Il est certain que nous sortirons du tunnel de l'épreuve. Les plus beaux moments de la vie que nous pouvons vivre humainement n'ont rien à voir avec la félicité céleste. Les moments bénis que nous pouvons vivre en Église ne sont pas le ciel sur la terre. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur l'Église de Jésus. Et malgré tout ce que l'on peut voir ou constater, elle sera présentée à Jésus sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens chapitre 5. Alors bien sûr, la personne qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ne connaît pas les prémices et ne peut absolument pas comprendre la vie chrétienne normale. La souffrance est pour nous aujourd'hui, certainement, mais pas pour toujours. La gloire est pour demain seulement, mais elle est pour demain. Versets 26 et 27, le Saint-Esprit plaide pour nous intérieurement. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, le meilleur, c'est d'être physiquement, et il s'agit bien de ça, d'être physiquement en présence de Jésus. Et ça, c'est devant nous. Comment vivre la vie chrétienne normale, faite de moments de souffrance et de moments d'accalmie? La souffrance est-elle là, sous une forme ou l'autre? Va-t-elle fortifier cette souffrance ou va-t-elle ébranler notre foi? S'agit-il là du chemin étroit que le Seigneur a dit de prendre en portant la croix pour le suivre? S'agit-il d'autre chose? Le bonheur est là, sous une forme ou sous une autre. Que devons-nous demander à Dieu? Qu'est-ce qu'il convient de demander à Dieu à ce moment-là? Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit est en nous. Il connaît de proche notre situation. Il ne peut pas être mieux placé. Il est en nous, au-dedans de nous. Il est aux premières loges de savoir ce qui se passe en nous, dans notre intimité, au plus profond de notre être. Il connaît nos souffrances de l'intérieur même. Il apprécie notre situation et il plaide. Il plaide notre cause. Il connaît notre situation spirituelle. Il plaide pour nous. C'est un allié. Il est toujours en nous et pour nous. C'est dans le sens d'un ami. Un ami n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on fait, mais il reste toujours fidèle à nos côtés. Il ne nous abandonne pas. Un autre enseignement également de cette faiblesse, c'est que nous devons écarter l'idée que nous ne pouvons pas comprendre. Écartons l'idée que nous pouvons comprendre les voies de Dieu. Alors, on a un bel exemple avec l'épidémie du coronavirus. Ah, tout le monde a tout compris. Voilà, il y a l'épidémie. Et chacun allait de son explication, ou presque. Mais en fait, il faut reconnaître qu'on ne peut pas sonder les voies de Dieu. On est trop faible pour cela. La chose que nous pouvons faire, c'est faire confiance à Dieu. Sachant que lui, il comprend ce qui se passe. Et surtout, il nous comprend, nous, parfaitement. On ne peut pas le comprendre, lui, mais lui nous comprend. Et il faut accepter que nous ayons cette position. Le Saint-Esprit intercède auprès du Père. Alors là, il y a quelque chose de merveilleux dans ce verset où on voit le Dieu qui intercède pour lui-même, en quelque sorte, si on considère la Trinité. Jésus appelait le Saint-Esprit le Paraclétos, l'avocat, qui porte notre cause de façon à ce qu'elle soit recevable au trône de la grâce. J'ai pas d'illustration pour ça. Peut-être à un moment, il y avait, vous savez, les écrivains publics, lorsqu'on devait s'adresser à une administration et qu'on ne savait pas écrire, ou qu'on savait à peine écrire, ou qu'on ne savait pas tourner les phrases, il y avait des écrivains publics, ils passaient longuement du temps à nous entendre, à nous écouter, ce qu'on voulait faire, et puis ils écrivaient une lettre en bonne et due forme, parfaitement rédigée, qui allait parfaitement porter le sujet à l'administration, qui allait parfaitement comprendre. Son rôle était essentiel. Et on ne peut imaginer meilleur allié, meilleur avocat à notre cause devant Dieu que Dieu lui-même. Alors on peut être rassuré. Notre situation, nos peines, nos souffrances ne sont ni ignorées ni méconnues. Dieu sait parfaitement notre situation. Amen. Ce texte nous laisse aussi la liberté d'étendre cette intercession du Saint-Esprit à toute situation, au-delà de la souffrance. N'ayons pas peur des prières maladroites. N'ayons pas peur de ce qui peut nous sembler des demandes déplacées que nous pourrions formuler. Hein. Je vais utiliser l'expression ici, l'Esprit Saint est là, il corrige le tir. Vous savez, corriger le tir, c'est... ceux qui tirent, hop, on me le... Ah ben non, là, t'es pas bon. Voilà, on oriente sur la cible. Hein. Ou alors, il y a ces missiles qui sont guidés vers l'objectif. Hein. Nous pouvons prier. Nous pouvons prier. C'est une invitation à prier. Le Saint-Esprit est là. Si on n'est pas fort pour prier, lui comprend et il intercède et il plaide et il porte ses prières devant Dieu de façon à ce qu'elles soient recevables. L'intercession, le Saint-Esprit intercède en nous. Jésus-Christ intercède depuis le lieu très saint. Il y en a deux qui intercèdent pour les croyants. Le Saint-Esprit intercède depuis le plus profond de notre être et Jésus-Christ intercède depuis le lieu très saint, la présence de Dieu. Et nous, est-ce que nous ne devrions pas aussi intercéder pour nos frères et pour nos sœurs? Je ne comprends pas la question de l'intercession. Je suis désolé de vous dire ça. J'ai du mal à comprendre pourquoi l'intercession est nécessaire, alors que Dieu est tout puissant et qu'il connaît tout. Ben, Dieu lui-même intercède. Notre Seigneur intercède. Le Saint-Esprit intercède. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de servir nos frères et nos sœurs que d'intercéder pour eux, comme le fait le Seigneur et le Saint-Esprit? Y a-t-il une façon plus efficace de les aider? Alors intercédons, prions les uns pour les autres, même si nous ne savons pas exactement ce qu'il convient de demander. Pour résumer donc, la création soupire et gémit. Le Saint-Esprit soupire et gémit. Nous les chrétiens, nous soupirons et nous gémissons aussi. C'est la vie chrétienne normale pour le moment. Mais un jour ce sera la gloire. Et aujourd'hui, Dieu est avec nous. Alors, prions. Amen. Alors, on peut prier. Je vais prier, mais si vous voulez prier aussi, après on chantera le 530. Il est un jour que toute la création attend et que nous aussi nous attendons. Oui, Seigneur, dans ta grâce, dans ta bienveillance, que nous ne perdions jamais, jamais de vue ce jour-là où tu vas revenir. Que les souffrances et les temps du temps présent, les difficultés de la vie et du chemin ne nous fassent pas voir la clarté à l'horizon de ton retour. Certain. Je viens combattre encore, on a chanté tout à l'heure. Que le confort de l'existence, peut-être les bénédictions que tu nous accordes, ne nous voile pas, ne nous distrait pas de ce prochain retour en gloire et de cet appel à ce que notre patrie, notre vraie patrie, est dans le ciel, est dans le ciel. C'est là notre destinée, c'est là vers quoi nous devons tendre et nous devons utiliser toute notre être, parce que c'est ta volonté, Seigneur, que de nous avoir été venu nous avoir à nous être arrachés des ténèbres pour nous conduire à ton admirable lumière. Le but, c'est la lumière. Seigneur Jésus, merci de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Merci pour l'intercession, cette possibilité que nous avons de te parler, même si nous ne savons pas comment prier, même si nos paroles sont hésitantes, même si nous ne savons pas exactement ce que nous devons dire dans les situations. Nous pouvons, Seigneur, intercéder, nous aussi. Nous pouvons, Seigneur, te prier, sachant que tu feras ce qui est bon, juste et nécessaire pour nous. Merci pour cette sanctification qui est en route, qui est en chemin et qui un jour sera complète. Ne permette pas, Seigneur, que nous gâchions nos journées, nos mois, nos années à perdre du temps. Mais que nous puissions contribuer à ce que ton règne vienne sur la terre. Amen.